Passionnément Vôtre. Passionnément Vôtre, l'émission 100% passion avec Chris Arnal.
Eh bien, donc, nous voilà donc pour cette nouvelle émission de Passionnément Vôtre. Je suis vraiment ravi de vous entendre à nouveau et surtout de recevoir à nouveau, parce que c'est la deuxième fois que nous recevons donc Stéphel Palita. Stéphel, bonjour et merci de revenir.
Avec grand plaisir.
Donc, cette fois, tu viens pas pour ce que tu fais habituellement, tes coachings et tout.
C'est pas pour le business. Ouais.
Voilà, c'est pas pour le business. Voilà, je ne sais pas le dire, mais c'est ça. En fait, je viens parce que j'ai découvert, à travers les réseaux YouTube et tout, que tu étais un peu globe-trotteur quand même.
Bah, je voyage beaucoup, j'aime beaucoup ça.
Ah, mais c'est impressionnant. Alors, justement, donc, en fait, on en avait parlé avant que tu partes en voyage de la tournée asiatique, on va appeler ça
comme ça.
C'est ça. Et j'avoue, c'était tellement passionnant voir les images. Tu nous as bien fait saliver d'ailleurs, je te le dis au passage, franchement, tu nous as bien fait baver. C'est des images magnifiques. Et donc voilà, donc tu t'es décidé, j'imagine, il y a quand même quelques temps de ça, de faire un périple, donc moitié Vietnam, moitié Thaïlande, c'est ça?
Oui, c'est exactement ça.
Et alors, donc, j'imagine que, a priori, t'aimes ces pays, mais alors, comment on se décide à partir, comment on s'organise à partir pour faire un périple quand même qui a duré un mois en tout?
Oui, ça, bah, tout simplement, déjà, j'avais des gens sur place, j'étais déjà allé au Vietnam la dernière fois, et justement, donc du coup, c'était plus facile cette fois-ci, même d'organiser ça pendant un mois, et tout ce que j'avais pas pu faire avant, par manque de moyens, parce que j'avais pas les mêmes moyens qu'actuellement. Et du coup, bah, j'avais envie de voir ça de manière différente, de faire le Vietnam de long en large et de faire aussi la Thaïlande, tout simplement.
Et alors, je sais, tout à l'heure, on a parlé, j'y tiens, comment tu t'organises. Tu m'as dit que tu as fait ça au feeling. Bon, il y a quand même un minimum d'organisation, quand même. C'est énorme comme voyage.
Bah, moi, je fais beaucoup au feeling, du sens que en Asie, il faut plutôt retirer de l'argent en liquide en France pour le changer là-bas, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas de TPE, il n'y a pas de carte. Donc c'est beaucoup plus facile.
D'accord.
Donc voilà, j'avais organisé ça avant. La dernière fois, je m'étais pas organisé, c'était un peu plus compliqué. Et puis après, tout se fait, hein, de toute façon. J'ai une amie qui est vietnamienne sur place aussi. Donc du coup, elle m'a aidé quand j'avais des moments un peu compliqués pour l'organisation. Je ne parle pas vietnamien du tout, donc bon.
Bah oui, je me doute, ouais.
On s'est organisé comme ça.
Mais ça parle pas un peu anglais d'ailleurs là-bas? C'est pas un peu
anglophone? Ah si, mais après, c'est l'anglais... un peu compliqué, on va dire que je suis pas bilingue non plus, donc bon.
Oui, tu m'étonnes, mais moi je serais encore plus perdu. Alors justement, donc on parle de voyage et tout, dis-nous déjà, parce que fais-nous rêver déjà d'entrée, le décalage horaire, il y a combien en fait? De combien de temps tu mets déjà pour aller là-bas?
Oula, à l'aller j'ai fait une escale en Chine, donc j'ai mis 21 heures, et au retour j'ai mis 22. Et
21 après, heures avec une seule escale?
Ouais.
Wow.
Ouais, ça fait mal.
Ah mais ça doit être énorme, parce que moi j'ai pris l'avion il n'y a pas longtemps, ça a duré moins d'une heure, mais alors 21 heures... Et d'ailleurs, t'as passé le temps commande parce que maintenant c'est long quoi.
Ouais, de toute façon, j'écoute de la musique, je regarde des séries sur Netflix. De toute façon, c'est, je réfléchis à pas mal de choses au niveau business aussi, donc ça prend le temps.
Oui, il faut savoir que Stéphel est toujours en ébullition dans sa tête. Et donc, alors, on a parlé de l'organisme de voyage et tout. Donc, pourquoi avoir choisi le premier, c'est le Vietnam que t'as fait en premier?
Exactement.
Donc, t'as fait ça pourquoi? Parce qu'il y avait déjà ton ami sur place ou non? C'était vraiment que t'avais décidé comme ça?
Bah, j'avais envie de retourner au Vietnam déjà parce que j'ai pas fait plein de choses la dernière fois, mais du coup, j'avais envie d'y retourner. Pour voir ça de manière totalement différente. Et en plus, je m'y sentais bien la dernière fois. J'avais beaucoup aimé. Même le peuple là-bas, les gens sont vraiment très gentils. Donc j'avais envie d'y retourner tout simplement. Et puis, s'enchaîner tout le reste par la suite.
Et donc, on va dire. Alors, la première baie, ville où tu atterris directement?
Hanoï, capitale.
Hanoï, carrément?
Ouais.
Et j'avais vu des images. Parce qu'il faut savoir ce qu'ils ne savent pas. Bah, Armand, t'as internet il n'y a pas longtemps, donc je te le dis. Tu regarderas sur ces réseaux, il y a des films fabuleux. Tu t'y crois. Franchement, j'ai l'impression de te voir dans un film, en fait.
Bah, en fait, la chose, c'est que quand j'étais plus jeune, j'avais pas eu forcément les moyens de voyager. Et je regardais beaucoup les gens à travers les réseaux en me disant, j'aimerais bien être à leur place. Et maintenant que je peux me permettre de voyager, je me dis, j'ai envie d'aider les gens à se dire, c'est faisable. Tout simplement. C'est pour ça que je prenais beaucoup de temps lors de mon voyage pour faire des belles vidéos, pour l'envoyer aux gens, pour donner envie aux gens, mais pas pour les faire bisquer, vraiment pour leur dire « j'étais à votre place il y a un moment, vous pouvez le faire ».
Et tu es parti de Toulouse?
Non, sur Paris. Je suis parti de Charles de Gaulle.
D'accord. Alors comment ça se passe? Donc on parle de Paris, capitale de la France, à Hanoï, capitale du Vietnam. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'a, je sais pas, qui t'a trouvé différent de la France d'un coup là? Qu'est-ce qui
s'est... Oula, tout. Ouais, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Déjà... pas la même langue, déjà je suis arrivé de nuit, donc j'ai dû prendre directement un taxi. En plus je suis arrivé, ça faut le dire, et je suis arrivé, il y avait les inondations là-bas, il y avait le typhon qui venait juste de passer. Avec le taxi, il y avait de l'eau dans le taxi, il y avait de l'eau jusqu'aux plaques des véhicules. Je suis arrivé vraiment à inondation.
Je vais faire un mauvais jeu de mots, mais tu étais dans le bain d'entrée. Quoi.
Exactement. Voilà. J'avais plus qu'à. Le taxi aurait dû venir me chercher en barque, je pense.
Mais le pire, c'est que malheureusement, je pense qu'ils sont habitués à ces trucs climatiques
oui,
là-bas.
Oui, bien sûr.
Je suis sûr qu'ils ne devaient même pas stresser. Enfin...
Bon, mais le taxi rigolait. On en avait de l'eau dans la voiture, il rigolait.
Ouais, c'est normal, ils sortaient des rames, c'est normal. Donc, du coup, tu es arrivé à Hanoï et tout. Tu y restais combien de temps à Hanoï
à peu près. Je ne sais pas, une semaine à peu près.
Et donc, j'imagine que tu as visité la ville.
Moi, je la connaissais déjà, mais on va dire que je me suis refait un petit peu au système là-bas. Un peu partout, aller manger local, aller changer de l'argent, me rebalader, me sentir bien, tout simplement. Le décalage horaire aussi. Parce qu'il y avait 5 heures de décalage horaire de base et la chaleur. Parce que je suis arrivé, il faisait 27 à 30 degrés humide. Donc, faut s'acclimater aussi. Et puis même, je travaille à distance. Donc, je devais organiser mes coachings avec le décalage horaire, alors que j'ai des gens avec qui je travaille au Canada. Dans le monde entier. Donc tous les décalages horaires, c'était vraiment un chantier la première semaine.
Ah oui, parce que moi je croyais que t'es parti vacances.
Ah non, j'ai bossé aussi.
D'accord. Ah, t'imagines d'Hanoï au Canada par exemple, un coaching. Mais alors, on est d'accord, t'arrives pas à déconnecter parce que je pensais vraiment que t'étais parti en mode touriste.
Si. Première semaine, j'arrivais pas parce que il fallait tout que je gère, le décalage horaire, tout ça. Et après, au bout de 8-10 jours, j'ai déconnecté. J'arrivais à organiser les moments de boulot et les moments où je profitais tout simplement.
Oui, voilà, parce que moi, c'est quand même, je pense pas un voyage qu'on fasse, on doit faire une fois dans sa vie, j'imagine. Enfin, tu étais déjà allé, mais bon, les gens comme nous, on se dit, tiens, Hanoï, c'est.
Bah, en fait, le truc, c'est que j'ai fait vraiment tout le Vietnam. Hein. Et surtout qu'en fait, j'ai eu une bonne étoile. J'ai esquivé toutes les catastrophes naturelles à un jour ou une demi-journée à chaque fois. Donc, Hanoï, je suis parti d'Hanoï pour aller direction Ho Chi Minh dans le sud. Et le lendemain, en fait, je suis parti le matin, l'après-midi, inondation, pendant 5 à 6 jours, impossible de bouger d'Hanoï. Donc j'aurais été immobilisé. Après, à Ho Chi Minh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai bougé un petit peu, il y a eu beaucoup de brouhaha. Et quand je suis allé vers Da Nang et Hoi An, c'est une ville vraiment avec que des lanternes, c'est magnifique. Quand je suis parti en Thaïlande juste après ça, inondation là-bas aussi. Il y a encore des inondations, j'ai regardé les images là, vraiment sous l'eau et très compliqué. Donc j'ai esquivé. Oui. Vraiment toutes les catastrophes naturelles.
On veut dire que tu as eu une bonne étoile, oui.
Là, oui, clairement.
Et alors, bon, même si c'était dans de mauvaises conditions, comment sont les habitants? Comment c'est l'hospitaliser, à la vietnamienne?
On va dire que moi, j'étais allé dans le vieux Hanoï, donc c'est vraiment touristique, très très touristique. Et ce que j'ai pas fait à la fin du voyage, j'ai été plutôt un peu plus reculé, et c'est pas la même chose. C'est des personnes différentes parce que, du coup, les prix, c'est pas les mêmes aussi, parce qu'il y a les prix pour les touristes et les prix pour les locaux. Donc... Oui, bien sûr.
Ah, d'accord.
Il y a les prix, il y a pas de prix, on négocie tout le temps. Donc, du coup, moi, je faisais plusieurs boutiques pour avoir un prix approximatif. Et après, je négociais, à part à manger, parce que tu manges pour 1,50€, 2€ le repas au resto. Donc, et puis tu négocies pas au resto, quoi.
J'ai 1,50€ de resto. Le jour où ça arrivera en France. Mais oui, donc, mais tu me disais tout à l'heure, oui, tu n'avais pas la langue. Donc, comment tu t'expliques? C'est beaucoup de. Je sais pas, c'est des gestes ou est-ce que...
On va dire que c'est l'anglais plutôt basique. Donc, c'est vraiment les mots directement. Montrer par exemple l'argent sur la calculette, combien on va payer. On se comprend. On arrive à se comprendre très facilement.
Ah, parce que je sais qu'il y a une application sur le téléphone aussi. Tu as un traducteur et tu peux faire écouter là. Je sais pas.
Après, j'ai pas utilisé ça. D'accord. Mais je pense que les prochains voyages, j'ai vu des choses qui se mettaient en place. Et ça, c'est quelque chose que je vais absolument utiliser. C'est les lunettes déjà qui sont en train de mis en place, qui traduisent directement toutes les langues dès que tu mets les lunettes. Donc tu peux partir partout. Et ils sont en train de mettre en place aussi des oreillettes qui te traduisent directement en direct. Et tu passes l'oreillette à quelqu'un en face. Et ici, il parle en chinois. Ça va lui traduire en chinois et lui, ça va me traduire en français. Donc on n'aura même plus besoin, pour les voyages ça va être top.
Ah mais ça c'est génial. Et t'as vu, moi qui ai déjà des oreillettes, je vais enfin comprendre Armand. Ça c'est génial.
Dans le futur.
Ah ouais, ça va être génial. Non mais donc ouais, on est d'accord, t'as réussi quand même à t'organiser. Mmh. Juste pour savoir, Hanoï, si on doit comparer une grande ville, enfin une ville française, c'est grand comment?
Oula, je sais même pas. C'est vraiment
la capitale, quoi.
C'est la capitale, mais c'est vraiment trop différent de la France. Parce que j'ai fait Paris, j'ai fait Marseille, j'ai fait Lyon. J'ai fait un peu toutes les grandes villes de France. Mmh. Donc ça ressemble à nul autre. Et puis, c'est immense. Après, tu traverses, il y a 30 scooters à droite, 30 scooters à gauche, personne ne se percute. Les gens font des slaloms, des queues de poisson, mais personne ne se douche. C'est très bizarre à voir.
Il n'y a pas de code de la route?
Il y en a, mais c'est pas le même que nous. Et quand on prend des grabs, c'est l'équivalent du Uber en France, on monte derrière, faut se laisser aller. Hein. Faut pas avoir peur parce que ça slalome, ça rentre entre les voitures, les camions à 10 cm, c'est quelque chose.
J'imagine, il arrive en bateau et après il circule à... C'est vraiment bizarre. Mais c'est là que tu dois, je pense, vraiment être imprégné de l'atmosphère du... Comme tu dis, toi, bah, à part quelques jours, mais après, tu as vraiment réussi à...
Mais
à
moi, j'avais déjà fait la dernière fois, donc je savais où il fallait lâcher, et je savais ce qu'il fallait faire. Ce qu'il fallait faire pour l'argent, ce qu'il fallait faire pour les logements, où il fallait aller, quelle application fallait télécharger, où il fallait aller aussi pour bien manger. Bon, j'étais bien conseillé aussi. Donc, ça a été...
Parce que toi qui faisais au feeling, tu savais. Donc le soir, tu savais pas où tu couchais ou à peu près quand même.
Une première semaine, si j'ai pris une semaine à l'hôtel. Après, j'adaptais par rapport aux intempéries aussi. Parce que par exemple, pour Hanoï, on a fui dans le sud du Vietnam directement. C'était mieux. Parce que sinon, ça aurait été inondation, surinondation. Et puis, ça aurait été très compliqué. Bloqué 7 jours à la capitale, pas pouvoir sortir de l'hôtel.
Le voyage aurait été un peu gâché.
C'est pas top.
Et est-ce que tu as. Alors, le Vietnam, parce qu'après, on parlera de la Thaïlande. Il y a un truc que tu as fait là-bas qui t'a vraiment marqué, parce que je sais que, alors je sais pas si c'était au Vietnam ou en Thaïlande, tu m'excuseras, mais je sais qu'à un moment, voilà, t'as nourri des éléphants, t'as nourri
en Thaïlande,
ça a trippé énorme.
Thaïlande, c'était, je raconterai tout à l'heure, mais c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, et je pense que à vivre, c'est unique.
C'est vraiment le pays que tu rêvais en plus.
Bah, en fait, moi j'aime beaucoup voyager déjà, et là je partirai normalement au Japon en janvier. Donc du coup voilà, et certainement aussi un autre pays en décembre. Donc bon, j'enchaîne.
D'accord. Mais écoute, nous on va enchaîner avec la pause musicale. Merci pour la passerelle. Et on se retrouve donc juste après avec Stéphane Palita dans Passionnément Votre.
Up. We'll knock it this up, but they knockin' like dominoes. Only real love, baby, now that shit, they gon' make you just up and stay bombin' so from the bottom floor to the top, now they wonder when my name gon' pop. Came from a broken home with their eggshells, from a tightrope wide drop, now smoking all shit, made the sky fall. And I bet they gon' answer when I call, cause I remember they told me it's my fault. Now we rich and we winning, it's my fault. They ain't gon' get shit out of me, though. What they gon' get from me is a high roll. Like, yeah, motherfucker, yeah, I know. Hit it good as she hit, now I know. Now I ain't gon' take this shit for granted. I just spent so many years inside this basement, tryna understand it. Told Brody he ain't got away. There's always a feast after the famine. I keep it bigger than they jamming. This shit is all for the fucking planet. Spaceship is all for the fucking planet. Now what in the fuck is you supposed to do when you selling your ship and it's capsizing? I got a Brody, you keep him a blick. I'ma flip me a brick to the trap's higher. I told my mama that I'm tired. Same conversation I told that woman, we gon' make it out this bitch with no briars. Bitch, I know only when I admire. Now why in the fuck would I care about a setup when I could just up it and knock him like dominoes? I need real love, mama. Fuck, I got real love, trauma. I miss my real bro mama. Nah, I ain't sharing my commas. Speaking of mama, look what I started. Remember they told me I'd be retarded. Shit, I seen it all. I remember when the doctors told me that I wouldn't even see the fall. Look how I ball. I like to stay out here to the top of my dick in their jaw. Shit, now my life has been looking crazy. I know a lot of motherfuckers hate me. They wasn't tapped in back then. Now they play the beat, fucking praise me like
présence à Figeac 97.7.
Et deuxième partie donc de Passionnément Votre avec Stéphane Palita. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, tu viens pas pour ton côté coach et tout. Non, c'est vraiment ton côté qu'on ignorait. Enfin, on le voit sur les réseaux, mais Globetrotter, parce que c'est vraiment une passion pour toi, une envie de partir, de voyager.
Bah, en fait, j'aime beaucoup découvrir les cultures et je trouve que déjà d'une, on n'a pas assez d'une vie pour tout découvrir. Donc autant aller directement au contact des cultures, des gens et s'en imprégner. Surtout, je trouve ça vraiment hyper important.
Alors, j'allais dire, sans mauvais jeu de mots, tu as vraiment été imprégné, parce que pour ceux qui n'ont pas écouté la première partie, quand tu es arrivé quand même au Vietnam, alors je raconte l'anecdote parce que c'est hallucinant. C'était aller dans un taxi où il y avait de l'eau jusqu'à la plaque d'immatriculation, on est d'accord?
Ah oui, non, mais vraiment.
Et ça ne stressait pas le chauffeur.
Il rigolait.
Non, mais c'est impressionnant. Bon, après, c'est vrai que malheureusement, c'est des pays qui sont sujets à ça, quoi.
Ouais, ben là, surtout qu'il y avait un typhon à ce moment-là, et du coup, mais moi, je savais pas si je pouvais atterrir de base, hein, donc, ouais.
Ah oui, j'ai pas pensé à ça, oui, c'est un avion.
L'atterrissage, c'était vraiment beaucoup de turbulences pour atterrir.
Ouais, moi qui l'ai pris il y a pas longtemps et j'aimais pas trop les turbulences, mais là, je crois que j'aurais pas aimé.
Ah, c'est sympa.
Et alors, du coup, voilà, tout à l'heure, on parlait voilà, des faits marquants que tu as eu. Tu m'as dit que tu avais Dans le Vietnam, tu as fait carrément toutes les grandes villes, c'est ça?
Oui, j'ai fait les plus grandes villes, approximativement, oui, c'est ça. J'ai fait les capitales, j'ai fait la capitale, j'ai fait des villes assez intéressantes. Après, j'ai pas tout fait, mais pour 20 jours, j'ai beaucoup, beaucoup bougé en Vietnam.
Donc, on va dire, bon, tu as fait taxi-bateau, on va dire.
J'ai plein de trucs.
Mais après, c'était quoi? C'était un bus, à pied, un vélo, enfin, je sais pas de quoi tu t'es déplacé à chaque fois. Pas de ville en ville, mais quand tu étais, par exemple, dans Hanoï, dans...
Bah, Hanoï, scooter. Scooter, ouais. Beaucoup, des grabs, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est comme c'est un taxi, c'est pareil. Et après, par exemple, pour aller de Hanoï à Sapa, qui est une ville un peu en montagne, j'ai pris le bus de nuit. Donc tu dors dedans, c'est un bus lumineux avec télé, tout ça, t'es allongé dedans, tu dors dedans et tu vas là-bas.
Ah, c'est génial. Mais tu vois, même en te déplaçant d'un point à un autre,
ah, c'est... Ah, mais tu fais des choses.
Et là, tu disais Sapa, c'est ça?
Sapa. Sapa, c'est vraiment, comme on voit dans les films, les rizières à étage.
Ah oui. Et donc tu es allé visiter des rizières, donc, du coup?
Et les rizières, et j'ai fait un trek là-bas. Donc pour visiter vraiment avec les personnes là-bas en local, qui nous faisaient visiter vraiment dans les bois, qui nous faisaient tout traverser. Pendant sur 10 km, on visitait les villages et tout ça.
Alors, je vais te dire des bêtises, mais c'est des Sherpas, non? C'est pas ça?
J'allais dire Sherpas, mais non. je sais plus où c'est, mais c'est on va dire que c'est à peu près le même style. C'est vraiment
des personnes.
C'est exactement, guide locaux.
J'imagine que tu peux. Enfin, si, tu peux te déplacer tout seul, mais non, même pas.
Pas dans les bois comme ça, hein. Non, je l'aurais pas fait. On se trimballait sur des rizières, sur des trucs qui faisaient 20 cm. On devait marcher et voilà, c'était...
Et attise ma curiosité, il y avait quoi à travers, à côté des 20 cm de la jungle?
Ouais, des fois il y avait de la jungle, mais après c'était souvent les étages en rizière. Après, il y avait beaucoup de boue, surtout, c'est ça qui me faisait peur pour glisser. Mais sinon après, ça allait.
Voilà, j'imagine quand tu te balades dans un comme ça, je sais pas, t'as pas rencontré des bêtes.
Bah non, à part des buffles, des vaches, des choses comme ça, mais c'est... J'ai pas rencontré de serpents, j'ai pas rencontré de choses comme ça dans ce style.
Parce que t'avais pas une appréhension justement?
Non, moi j'ai pas peur d'un gouffre.
Parce que j'imagine Armand d'aller faire un trek, ça va être terrible. Hein, Armand?
C'est trop bien.
Tu m'étonnes. Et combien ça a duré ce trek là?
Oh, je sais pas, j'ai parti le matin jusqu'à l'après-midi.
Et rien que de traverser la...
10 km. Où ça monte, ça descend. C'est de la grosse descente, c'est de la grosse montée. Et puis tu marches dans la boue, tu traverses les villages. Voilà.
On parlait tout à l'heure de t'imprégner de Timissi, là tu pouvais pas être mieux imprégné que ça.
Mais c'est pour ça que je suis parti. Parce que tout simplement, je voulais aussi voir si c'était possible de travailler avec mon business à distance comme ça. Parce que pour moi, c'était assez important de me dire, est-ce que je peux goupiller les deux, le travail et le plaisir. Et du coup, ça a été fait. Ça n'a pas été facile, mais ça a été fait.
Parce que j'allais dire, alors je sais bien qu'ils connaissent Internet, puis il n'y a pas des points de connexion justement quand tu pars en pays.
Figure-toi qu'on a, j'ai plus eu Internet là-bas qu'à des endroits en France, alors que j'étais perdu.
Tu vois comme quoi je pensais
5G,
que...
vraiment, c'était. Ouais.
Ah, mais tu vois, ça me prend à dire des bêtises. Je pensais, honnêtement, oui. Parce que non, mais c'est vrai que c'est un grand pays, donc tu dis, bon, il y a peut-être des problèmes.
Ah non, mais même les personnes qui avaient juste chez eux, il n'y avait pratiquement rien, c'était vide dans les petites comme ça, ils avaient tous un marketplace sur Facebook. Donc c'était vraiment impressionnant. Tous les gens avaient des business sur Facebook. C'était. Ouais, ça m'a vraiment surpris.
Ils sont malins là-bas, ils sont vraiment malins. Et je sais pas, est-ce que tu as payé peut-être une rencontre étonnante ou je sais pas, une personne qui t'a. Et ton amie là que tu me parles du Vietnam?
Elle était avec toi
ou.
Non, elle est restée à la capitale parce qu'elle fait du business là-bas et tout ça. Donc voilà. Il y a une amie qui m'a rejoint avec qui j'ai fait tout le road trip, tout ça ensemble. Donc ça va, c'était cool, j'étais pas tout seul.
Parce que oui, mais j'allais dire c'est quand même plus sympa. Et puis bon, j'ai vu qu'il y avait des vidéos qu'il fallait automatiquement quelqu'un de filme. Parce que
après, sinon... je sais que quand je voyageais un petit peu à droite à gauche, tu demandes aux gens, les gens s'y prêtent au jeu, mais c'est vrai que là j'ai voyagé avec une amie, c'était agréable.
Ouais, enfin, je bois tes paroles parce que franchement ça va être magnifique. Ça va être vraiment magnifique. Et donc, alors là on parlait de Vietnam, t'es quand même resté 20 jours.
J'ai fait 10-10. J'ai fait 10 jours Vietnam, 10 jours Thaïlande et après je suis refait 10 jours Vietnam.
D'accord, oui, donc vraiment interné. Et donc, tu es parti d'où, du Vietnam, pour atterrir en Thaïlande?
Je suis parti de Da Nang, c'est un petit peu comme Miami, mais voilà, c'est exactement comme Miami, la plage, tout ça, à Bangkok, du coup, la capitale aussi de la Thaïlande.
Et alors, parce que bon, les pays asiatiques, moi j'avoue, je ne les connais pas trop, il y a une différence vraiment, ne serait-ce que l'atmosphère, les.
Oui, rien à voir. Déjà, dès que j'ai atterri à Bangkok, il fallait remplir certains papiers qui n'étaient pas obligatoires avant. Pour directement passer sur le territoire, donc du coup c'était assez compliqué. Après on a passé tout ça, et puis après c'est pas la même chose parce que déjà il y a pas de mendiant au Vietnam, c'est interdit. Donc tout le monde a quelque chose à vendre ou quelque chose d'artistique ou quoi que ce soit. Alors qu'en Thaïlande, dès que je suis arrivé à Bangkok, j'ai vraiment vu ça directement, vraiment.
Alors, j'allais dire c'est ce qui vendait tout, mais à la limite on va dire c'était des mendiants déguisés, pas déguisés.
Oui, mais du sens que ils vont pas mendier pour rien. Par exemple, ils vont vendre des barrettes, ils vont faire un tour de magie ou ils vont cracher du feu. En fait,
ils proposent quelque chose
contre même si c'est la, même s'ils mendient, c'est pas pareil, c'est pas la même chose.
Ah oui, je pensais pas parce que de là intérêt, mais en plus honnêtement ça va être... Il y a un côté pauvre dans ces pays,
c'est pas possible. Oui, mais ils gagnent $125 au moins. Donc oui, c'est quand même pauvre.
Si on est d'accord, j'imagine, bon, il y a les très pauvres et puis il y a sûrement un côté très
riche. Oui,
il n'y a pas de juste milieu, j'imagine.
Non, c'est l'un ou l'autre.
Et ça t'a marqué justement, si je sais pas, est-ce que tu es passé dans des endroits très luxueux ou des endroits très pauvres? Est-ce que t'as vu
J'ai fait du 1 étoile et j'ai fait du 5 étoiles à la fin avec rooftop, avec piscine sur le toit. J'ai vraiment fait tous les styles différents pour vraiment m'imprégner de chaque endroit, chaque truc. Donc non, franchement, j'ai tout testé là-bas et il y a des gros écarts, ouais, c'est clair.
Et justement, lequel écart t'a plu le plus? Le côté luxueux ou même
Moi, j'aime bien les deux. J'ai bien aimé autant à Sapa, le petit chalet avec justement vue sur les rizières qui était magnifique, qu'autant le 5 étoiles à la fin avec le rooftop, avoir un peu de confort à la fin pour se reposer parce que c'est fatigant de bouger pendant 30 jours aussi. Donc ouais, ça fait aussi du bien.
Et justement, tu as organisé comment tes journées? Parce que je sais que t'es matinal quand même. Donc est-ce que tu as eu le temps de faire du sport, toi qui es un grand sportif?
Rien du tout. Impossible. Déjà, j'ai marché 250 km, je crois, en l'espace de 30 jours, j'ai regardé. Et du coup, j'avais pas le temps de faire autre chose. Et puis, même avec la chaleur et tout ça, la fatigue, je me déplaçais tous les 2-3 jours, changer d'endroit. C'est impossible. J'avais organisé pour aller à la salle. Impossible. Impossible.
Ah mais toi t'avais eu espoir quand même.
J'avais eu espoir mais il s'est éteint très vite.
T'avais vite compris c'était pas la peine.
Mais non, ça va rien.
Mais c'est là que je te dis, voilà, tu t'es donc imprégné de l'atmosphère et tout. Et il y a, alors, c'est pas des regrets, mais il y a des choses que t'aurais aimé faire hein, ou que t'as pas pu faire, ou non, t'as vraiment réussi à tout faire.
J'ai tout fait. Pour moi j'ai fait tout ce que je voulais faire, j'ai même fait plus. Et je pouvais pas demander. En plus avec pas mal de catastrophes climatiques déjà, je me sens chanceux de ne pas avoir subi rien à part un peu d'inondation dans la voiture au début. Sinon, il n'y a rien eu, quoi. J'ai eu de la chance.
Ça me fait rire d'entendre parler d'inondation dans la voiture. T'sais. Et en plus, avec le mec qui se marre. Mais je ne sais pas, tu m'excuseras, mais je ne sais pas si c'est Vietnam ou Thaïlande, mais donc, je sais qu'à un moment, tu es allé dans un... C'était magnifique l'image, un temple bouddhiste.
C'était Thaïlande. Thaïlande, en fait, j'ai fait beaucoup de temples à Bangkok. Et après, j'ai enchaîné, comme tu me parlais tout à l'heure, avec les éléphants, j'ai enchaîné sur aller baigner avec des éléphants. C'est hors du temps. En plus, les éléphants, ce qu'on ne s'en rend pas compte, c'est qu'ils sont immenses, mais tu ne les entends pas marcher. Ils peuvent être à 1 cm derrière toi, tu ne les vois pas.
Avec le bruit qu'ils font ?
Je te promets qu'il n'y a pas un bruit. C'est assez impressionnant, et du coup, il fallait faire très attention, parce qu'ils peuvent très vite t'écraser. Hein. C'est immense. Ils sont très brusques aussi quand ils te prennent le bambou pour manger. Et après, j'ai aussi fait les tigres. Donc, du coup, je suis allé caresser un tigre de 1m60 là, dans la cage. Je précise à la radio, c'est que j'ai regardé avant pour faire que des lieux éthiques. Donc, je ne suis pas monté sur les éléphants parce que c'est pas éthique, je ne fais pas ça. Les tigres que j'ai caressés ne sont pas shootés. Il y avait beaucoup de risques. Il y avait des dresseurs qui étaient avec nous pour les faire jouer un petit peu, les distraire. Donc, j'ai pris les risques quand même et parce que je voulais rester éthique. Je trouve que c'est important.
C'est-à-dire qu'en fait, si tu aurais voulu, tu pouvais te balader sur l'éléphant ?
Bien sûr, mais moi, je ne fais pas ce genre de choses. Je trouve que donner à manger et respecter l'éléphant, s'il a envie de se baigner, d'aller se baigner avec, je trouve que c'est ça. Et le tigre, s'il n'avait pas envie qu'on rentre dans sa cage, on ne rentrera pas dans sa cage. C'est chez eux, en fait.
Ouais, c'est le respect.
C'est ça.
Je pense que tout le monde n'aurait pas. Tous les touristes ne pensent peut-être
pas. Non. Mais moi, j'étais hors de question d'aller voir des animaux shootés ou de voir des. De monter sur un éléphant, non. Hors de question.
C'est quoi le plus impressionnant, éléphant ou tigre ?
Les deux. Un tigre, c'est tellement... C'est impressionnant, ça fait bizarre. Quand tu caresses un tigre, déjà, c'est quand même vachement gros. Et l'éléphant, c'est immense. Les deux, c'est pas comparable.
Mais j'avoue que tigre... Bon, après, bien sûr, il y avait sûrement les dresseurs à côté, mais oui, c'est vachement impressionnant.
Mais quand il y a le dresseur à 3 mètres et que toi, t'es collé au tigre, tu te dis, s'il a un bout d'un moment, il a envie de se retourner, il se retourne. Hein.
En fait, je vais pas le faire, en fait. Écoute, comme je dis à chaque fois, je me répète, mais c'est vrai, l'émission est courte, donc on va colorer la première partie, et je te remercie encore Stéphane Palita d'être venu, et nous allons retrouver bien sûr sur la deuxième partie, nous allons continuer à parler de ton voyage en Asie, et après mon petit côté que j'adore, c'est le petit côté du tu préfères, où je sais que tu vas te régaler et tu vas nous régaler. Merci à vous et nous retrouverons dans la deuxième partie.
C'était votre émission Passionnément Vôtre, l'émission 100% Passion avec Chris Arnal.